Salut les amis.
Là,
quel stress.
Mais quoi,
j'en peux plus de ce qui se passe chez les Républicains. Ah, mais oui, l'un qui veut pas partir, oui, l'autre qui veut pas revenir, et puis tous les autres qui se placent.
On a l'impression que même eux savent pas ce qu'ils font.
Oui, moi j'aime bien regarder, je trouve ça.
Ouais, à la limite, ils improvisent, ça fait comme un concert de jazz.
Moi j'aime bien le jazz, moi.
Ça tombe bien.
Mais pourquoi?
On reçoit Michel Jonas.
Oh, j'adore. Un peu parti, un peu là. Juste des gens dans un bois.
Ouais, non, mais là, il vient en tant qu'acteur.
Ouais, bien, je l'aime bien.
Alex, il est gentil, mais il chante pas très bien.
Bon, très bien. Alors, de quoi on lui parle à Michel Jonas?
Ah,
lui, évidemment, sujet 1, les Républicains.
Oui,
j'espère qu'il aura des choses à dire sur ce sujet.
Ah, bah, au pire, il improvise, c'est un jazzman. On a dit
Quand Fillon, il y a Juppé qui s'en va.
Oui, c'est ça, c'est un point de vue.
Oui, il y a du charcot dans l'air, il y a du baron dans le coin. Rien ne va entre Fillon et Sassman.
C'est super comme analyse politique, c'est pas mal.
Mais c'est du nougaro.
Oui, alors oui, mais les chanteurs de jazz, c'est tous pareil.
Mais enfin, il est là comme acteur. Oui.
Oh, et il joue dans quoi?
Alors, c'est une pièce qui est un dialogue entre un vieux juif décédé pendant la Shoah et un jeune des banlieues tué par la police.
Il joue quel rôle là-dedans, lui?
Évidemment. Sinon, il y a un article dans le Parisien sur un parc d'attractions pédagogique en Alsace sur la Seconde Guerre mondiale.
C'est rigolo de mettre un parc d'attractions en Alsace en 40-45.
Pourquoi?
Parce que l'Alsace était déjà un parc d'attractions en 40-45.
Ça suffit là. Je ne veux plus que vous fassiez les jazzmen de pacotille. Ça suffit. Voilà. Parce que pour ça, on a déjà André Manoukian. Alors, merci bien. Bonjour la France Inter, bonjour la mairie de Bordeaux, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui ne peut répondre pleinement à l'exigence d'exemplarité en matière d'actualité, mais voici trois informations qui incarneront le renouvellement jusqu'à 18h. François Fillon devra peut-être aller jusqu'au bout. Enfin, on sait toujours pas encore très très bien. La seule chose certaine, c'est qu'il ne faudra pas compter sur Alain Juppé pour sauver la droite.
Non, monseigneur, ça suffit. Faites des rondes jambes, debout, assis, couché, saluez comme si, parlez comme ça, je n'ai pas tué la tête. Alors, monsieur le marquis, bien le bonjour.
À force de réclamer de la flexibilité pour être compétitif, le système capitaliste a fait émerger une nouvelle classe appelée le précariat. Mais le précariat est-il prêt à relancer la lutte des classes?
Toi, t'es un navire. Tu me supportes pas. Eh ben moi, je te supporte. Ben, je supporte le monde aussi. Alors, peut-être que je suis un parasite, mais moi, je suis juste.
Deux passionnés de la Seconde Guerre viennent d'ouvrir leur collection au public dans un lieu hybride entre musée et parc d'attractions où les enfants peuvent jouer à la guerre, simulation.
Dans l'armée, on ne fait pas que tuer, hein, je précise.
Tout à fait. Nous faisons aussi des lynchages, des pillages et des vols.
Et pour m'accompagner, voici celui qui vient chaque jour la fleur au fusil quand elle n'est pas imprimée sur ses chemises. C'est Alex Vizorek.
Oh, que c'est bien dit. Bonjour Charlie Vanacker, vous êtes en forme pour la semaine. Alors moi, je vous ai amené une belle équipe, 17h20. 17h20, c'est le moment où l'on parle de musique. Et pourtant, c'est à elle qu'on a confié la chronique, elle qui est plus spécialisée dans ce qu'on appellerait le bruit. Bonjour Mélanie Bauer.
Vous n'aviez pas d'inspiration aujourd'hui?
Non, je la trouvais bonne.
Alors une fois n'est...
Oh la méchanceté. Donnant.
Une fois n'est pas coutume, un livre des mémoires. Celle de Gilles Scott-Heron, héros torturé de l'Amérique. Gilles Scott-Heron, la dernière fête, c'est aux éditions Point.
Très bien, 17h30, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il grêle de la bêtise, il sort son micro pour aller à la rencontre des gens qui ont du panache. Et donc, ce week-end, c'était Trocadéro pour vous, Guillaume Meurice.
Évidemment, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Bah oui, j'y étais, j'avais rendez-vous avec l'histoire, forcément, avec Fifi et ses supporters, tout en retenue, je dirais, tout en mesure.
On va gagner, on va
gagner. Ils ont un côté meeting de Macron, tu sais.
Et enfin, 17h40, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et elle n'aimait déjà pas ça quand elle était petite, car elle digère très mal le kidibule. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour.
De quoi on parle?
Eh bien, comme c'est mon anniversaire, j'ai décidé de me faire plaisir.
Très bien.
Et j'ai choisi le plus grand roman d'amour du XXe siècle.
Eh bien, bim.
Et voici celui qui a tout annulé pour nous. Vous êtes à la fois musicien, chanteur et acteur. On vous doit entre autres Super Nana, la chanson qui lance votre carrière en 74. Dites-moi, joueur de blues, la boîte de jazz. Au cinéma, vous avez notamment tourné pour Claude Lelouch dans Une pour toutes ou dans Première étoile de Lucien Jean-Baptiste. Vous jouez également au théâtre, on va en parler. Vous êtes donc, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Michel Jonas.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Enfin, dans le fond, qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'est vous, Michel Jeunesse?
Un peu parti, un peu mal, c'est ça que vous vouliez.
Non, j'ai rien dit, moi. Non, je vais juste poser une question.
Ça reste dans la tête, les chansons de Michel Jeunesse.
C'est donc bien vous, Michel Jeunesse.
C'est moi.
Et on peut vous voir au théâtre du Gymnase Marie-Belle, dans Les Fantômes de la rue Papillon. Mm-hmm. Une pièce écrite et mise en scène par Dominique Coube, avec Samy Séguir et la participation de Judith Magre. Et Alex est allé vous voir au théâtre.
Mais oui, et ben vous êtes un comédien, c'est pas un chanteur qui fait de la comédie, vous êtes comédien, vous avez un des deux rôles principaux, parce qu'il y a que deux rôles et c'est deux rôles principaux. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est pur dialogue. On arrive, il y a un banc, il y a un lampadaire, vous êtes assis sur ce banc et vous êtes Monsieur Joseph, réparateur de violon, mais en fait, vous n'êtes plus Monsieur Joseph.
Non, puisque nous sommes effectivement... dans un espace un peu virtuel, qu'on pourrait appeler l'espace des fantômes. Ouais. Alors l'histoire, elle est simple. Moi, j'ai été tué le 16 juillet 1942, c'est-à-dire le jour de la rafle du Veldiv. Et lui, Samy Séguir, donc, qui joue le Aïssa, le jeune beurre, puisque c'est pas moi qui joue le jeune beurre, moi je joue le vieux juif.
Ah, si.
Oh, mais vous gâchez la surprise, là, Michel.
Non, monsieur. a été tué aujourd'hui. Donc, effectivement, nous avons été tous les deux assassinés dans des circonstances bien différentes, mais pour des causes communes. Le racisme, l'antisémitisme, c'est tous ces vieux démons qui se cachent encore aujourd'hui et qu'il faut savoir combattre. Et donc, c'est cette rencontre entre ces deux êtres. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vu ma famille partir dans des bus... mais j'ai été tué. Donc, lui, c'est ça le fil conducteur, enfin c'est le pitch, ce jeune beurre va m'aider à comprendre ce qu'a été la Shoah.
Parce que l'idée, c'est que vous décédez et le fantôme réapparaît dans la rue ou dans l'endroit où il est décédé.
L'idée, c'est que, c'est ce que j'explique aux jeunes, j'ai dit, tu sais, on est tous les deux morts devant le 4 de la rue Papillon, et l'histoire, c'est que lorsqu'on meurt, on se retrouve fantôme pile devant l'endroit où on est mort. C'est pour ça qu'on se retrouve tous les deux dans cet espace virtuel. On n'a pas encore été chez Dieu.
Parce que moi, sas,
voilà. Moi, je suis là parce que je veux avoir des nouvelles de ma famille. Et ce jeune homme va m'aider à comprendre ce qu'a été la Shoah.
Alors, les nouvelles de la famille, c'est assez amusant parce qu'évidemment, c'est bourré d'anachronismes, puisqu'il vous amène les 60-70 ans qui vous manquent. Et de temps en temps, lui, il revient un petit peu faire un petit tour dans le monde réel et il vous ramène un iPad.
Bah oui, parce que moi, je lui dis, pour retrouver des nouvelles de ma famille, il faut que tu ailles à la mairie, il faut que tu consultes les fiches d'état civil, il y a la naissance, il y a les décès. Et lui, un jour, il arrive à sortir et il revient avec un iPad en disant, ça, c'est les milliards de mairies, on peut. Voilà. Il me dit, c'est ma botte secrète.
Et surtout, il y a des parties très drôles. C'est-à-dire qu'il vous explique qu'en fait, c'est l'Algérie. C'est un Algérien qui a inventé l'iPad. Et bon, ben, comme vous ne savez pas.
Oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je peux regarder la rue. Je suis pile assis sur ce banc dont vous parliez. Je regarde la rue, mais je n'entends pas. Et j'aime bien recopier les titres des journaux. Et je copie ça avec un clou sur le banc. Et voilà, le 21 juillet, je ne me rappelle plus de la date, le jour où les hommes ont marché sur... C'était en 69, le premier, où on a marché sur la Lune. Et il me dit ça. Je lui dis, mais qui a pu faire cet exploit-là? Qui a pu réaliser un tel exploit? Et il me dit, il n'y a qu'un seul pays au monde. Moi, je lui dis, l'Allemagne. Non, monsieur, l'Algérie. Alors, je lui dis, ah bon, alors donc... tu m'as déjà dit, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le portable, la télévision, la mini-jupe, enfin voilà.
On est déjà dans l'ère du fake news, donc.
Et alors, l'idée, c'est de comparer les situations, parce que c'est ça que ça raconte. Vous dites, à l'époque, on ne pouvait plus jouer dans les squares, et il vous répond, aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas évident non plus. Quand on joue dans les squares,
C'est ce qu'on aimerait pour nous, c'est ce qu'on aimerait pour nous. Mais moi, je crois que cette fable, c'est un prétexte pour dire que... Ben que la fraternité, elle est indispensable, quoi. Elle parle de cette indispensable fraternité et de la joie qu'on a d'être avec un autre.
Parce que pour terminer, c'est ça qu'il dit à un moment, il dit on ne les connaît pas les juifs, maintenant que je vous connais, je vous trouve sympa.
Exactement.
Et inversement, vous dites, mais pour nous, les Arabes n'ont jamais été des voleurs, c'était des militaires chevronnés.
Oui, c'est ça, c'est une vraie rencontre d'amitié et de solidarité entre deux êtres, entre deux âmes.
Et il ne faudrait pas que ça se passe dans l'au-delà. Donc, J'espère que c'est ça que ça dit.
Bah oui, c'est ça la leçon, hein, c'est ça la leçon de la pièce.
Et ça s'instaure aussi dans le duo, parce que c'est tellement rempli d'humanisme, de curiosité vers l'autre, etc., que quand on fait un duo de comédiens comme ça, ça transpire dans la relation.
Ça transpire. Alors j'en profite pour dire que pour moi, c'est une vraie joie et une découverte.
Il est brillant.
De jouer avec ce jeune Sami Seghir qui joue d'une façon très, très naturelle. C'est-à-dire, ça passe pas par le comment il faut que je joue, comment il faut que je parle, comment il faut que je me comporte, etc. Un truc vraiment très, très intuitif. Et c'est, ah oui, c'est génial. C'est une vraie rencontre. Oui.
Dans Les fantômes de la rue Papillon, c'est au théâtre du gymnase Marie-Belle. C'est du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 18h avec Sami Seghir, donc, et la participation de Judith Magre. Écrite et mise en scène cette pièce par Dominique Coube.
Je ne t'oublierai jamais, criais-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre de la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. Prononcer des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que ceux, les chemins de l'errance.
C'est Radio Elvis, La Route sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Notre invité, c'est Michel Jonas, qu'on peut voir au théâtre en ce moment, au théâtre du gymnase, dans Les fantômes de la rue Papillon, avec Sami Seghir et Alex Vizorek autour de cette table pour entourer Michel Jonas.
Michel Jonas qui, je crois, a le même fournisseur de chemises que moi.
C'est vrai.
Mais vous avez en tout cas des belles fleurs. Moi, j'aime bien les chemises à risque, hein, comme
ah
on
ouais.
les appelle.
Ah oui.
Et,
ah ouais, t'as vu ce qu'il y a dessus?
Voilà. Ah non, j'ai pas vu. Ah,
alors, est-ce qu'on peut décrire à l'auditeur?
Oui.
Est-ce que ce serait pas des miss quelque chose?
C'est des femmes, c'est des miss. C'est miss des années 50,
c'est ça. Ah oui, c'est des petites photos collées comme ça.
Ouais, ouais.
Bon,
il
quand on a fini de parler chiffon, dites-nous qui est autour de la table.
Bah, qu'on parle chiffon, il y a des filles autour de la table. Hein, il y a Juliette Arnaud et il y a Mélanie Bauer. Voilà.
Et Guillaume Meurice.
Si on peut pas rire. Michel Jonas, il est temps de s'informer. Hein, parce que si ça se trouve, entre-temps, le plan B, c'est devenu Nadine Morano. Alors allons-y.
Ce que je Le jeu de presque 17h17.
Et un bon projet commence par les titres.
François Fillon a annoncé avoir réuni 200 000 personnes hier au Trocadéro, alors qu'il n'y en avait que 45 000.
Oui, bah la bonne nouvelle, c'est que si ça se trouve, quand il va supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, bon, ça nous fera un petit 120.
Et hier soir sur France 2, le candidat de la droite a prétendu qu'une chaîne de télévision avait annoncé une tentative de suicide de son épouse, sauf qu'aucun média n'a jamais relayé ce genre de rumeur.
Oui, donc même les tentatives de suicide de Pénélope Fillon sont fictives.
Hein. On va pas s'en sortir, mais il y aura des brèves.
Bah, il reste plus que ça, ma bonne dame. Vous l'aurez remarqué, une édition assez centrée sur les Républicains, dont les deux jours qui viennent de passer sont rocambolesques.
Oui, hier, François Fillon a répété à plusieurs reprises « Je ne suis pas autiste ».
Oui, et de nombreux autistes auraient immédiatement répondu à plusieurs reprises « Je ne suis pas François Fillon ».
Hier matin, c'était Pénélope Fillon qui avait donné une interview au Journal du Dimanche, ce qui est exceptionnel.
Effectivement, c'est exceptionnel qu'elle intervienne dans la presse sans facturer.
Mais la surprise d'hier, c'est que Fillon a enregistré un soutien pour le moins inattendu, celui d'Alain Afflelou.
Ah oui, mais en même temps, c'est bien rendu compte au Trocadéro qui voyait double ou triple. Une bonne paire de lunettes, ça lui fera du bien.
Et puis ce matin, Nicolas Sarkozy a proposé une réunion avec François Fillon et Alain Juppé pour trouver une voie de sortie digne.
Voilà, quand on arrive au point où c'est Nicolas Sarkozy qui doit gérer ce qui touche à la dignité, c'est qu'on est bien loin.
Et ça, Alain Juppé l'a bien senti. Oui. Il est sorti de son silence et il a tenu une conférence de presse ce matin pour dire qu'il ne sera pas candidat.
Oui, c'est la troisième fois qu'il le dit ça.
Oui, c'est vrai.
Enfin, attention,
c'est vrai.
Là, c'est les premiers signes d'Alzheimer. Là,
non, mais attendez, ne critiquez pas Alain Juppé, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les Français.
Je mesure la déception que provoquera cette décision chez beaucoup. Mais il est trop tard.
C'est vrai, Alain, c'est... Putain de coup derrière la tête.
Ouais, donc, Alain Juppé ne se présentera pas, donc une place est à prendre à droite, peut-être.
Oui, bah, autant dire que l'espoir renaît chez Manuel Valls.
Suite à cela, les sarkozistes demandent à François Fillon de se choisir lui-même un successeur.
Oui, alors il va falloir faire très attention, François. Les affaires d'héritage, c'est souvent extrêmement compliqué. C'est pas la famille Troadec qui me contredira.
Alors on va changer de sujet plutôt. Économie, les valeurs boursières des grands groupes de vins et spiritueux connaissent depuis ce matin une forte hausse.
Mais oui, bon anniversaire à Juliette Arnaud.
Météo.
Mais c'est coup de bol, excusez-moi, je l'invente pas.
La tempête Zeus prive d'électricité plus de 250 000 foyers, essentiellement en Bretagne.
Ah bon ? Ils ont l'électricité.
Alex, si les auditeurs bretons nous écoutent, on va recevoir du courrier.
Aucun risque, ils n'ont plus d'électricité, ils n'écoutent pas.
D'accord, c'est bref.
Oui, un drame au Japon.
Ah bon?
Oui. Un quinquagénaire a été retrouvé mort après avoir reçu sur la tête l'impressionnante collection de magazines pornographiques qu'il conservait chez lui.
Ah, ça vous a inspiré quelque chose?
J'ai fait du rangement immédiatement chez moi.
Terminons par une page culture.
France Inter. On aime.
C'est drôle.
On vous en parle.
Ah, mais là, on aime, on vous en parle, c'est la culture. C'est un youtubeur, Michel Jonas, Matt2, qui fait des remixes de discours politiques. Ici, il s'est emparé du discours de François Fillon. Ça donne « Je ne me rendrai pas ».
Mesdames et messieurs, je serai convoqué, mon avocat a été informé, je n'ai pas les tournées, qui peut décider, s'il nous faut l'emporter, je ne me rendrai pas, je serai candidat, je ne me rendrai pas, je ne reconnais pas, je ne me rendrai pas.
Je ne me rendrai pas. Moi, j'aimais déjà beaucoup la version de Jean-Pierre François, mais...
Ah, voilà, je cherchais...
Ah oui, demandez-moi quand c'est comme ça.
Vous êtes sur France Inter, hein, ce qui est entre... Sinon, vous n'êtes pas sur Rire et Chanson, vous êtes sur France Inter. Vous n'êtes pas sur Nostalgie, vous êtes sur France Inter. Et Michel Jonas aussi, donc oui, ça tombe bien. Michel Jonas, on va aborder avec vous ce premier sujet.
Ah bon ?
Alain Juppé refuse donc d'être le recours. C'est déjà la deuxième fois qu'il nous quitte. En 3 mois.
Oh là, c'est
dur. Alors, à moins d'un nouveau rebondissement ce soir après le bureau politique qui se tient chez les Républicains à 18h, François Fillon ira jusqu'au bout, jusqu'à bout de nerfs, même on peut dire.
Bonne nouvelle chez nos voisins français, puisque les affaires Fillon-Le Pen font désormais jurisprudence. En effet, si vous êtes pris en flagrant délit d'infraction à la loi, mais que vous prononcez la phrase...
Quoi qu'il arrive, tu iras jusqu'au bout.
La jurisprudence Fillon s'applique automatiquement et les policiers sont obligés d'attendre que le contrevenant aille jusqu'au bout. Idem pour la jurisprudence Le Pen qui s'applique exactement de la même manière.
Vous avez votre permis de conduire ?
Ah non, je l'ai pas.
Défaut de présentation de permis de conduire, vous allez me suivre au poste alors ?
Non.
Et pourquoi ?
Parce que j'ai pas envie.
Bon, bah circulez alors.
C'est un extrait de Groland diffusé ce week-end. Qui est très très drôle, effectivement. Michel Jonas, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce feuilleton interminable et palpitant
incroyable.
Qui nous cause un ulcère à l'estomac et qui dure depuis un mois maintenant? Est-ce que dans tout ce feuilleton, il y a l'un ou l'autre aspect qui vous frappe? Qui vous suscite une réflexion?
Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Jacques Attali, qui est un ami, et on se voyait souvent, on mangeait des gâteaux. On voulait même faire un guide sur les gâteaux, parce qu'il adore les gâteaux. Puis
on
a partagé le gâteau avec Attali.
C'est quand même un mec qui roule dans la farine.
On faisait des repas où chacun devait apporter des gâteaux, on ne mangeait que ça.
C'est bien le dernier thème qu'il a
et un jour, il m'a dit que le pouvoir rend fou et qu'on c'est une vraie drogue dont on ne peut pas se passer. Et voilà, c'est ça que ça donne comme impression. C'est-à-dire que est-ce qu'ils veulent vraiment, ces hommes politiques qu'il faut élire, est-ce qu'ils veulent vraiment le bien-être des gens, quoi? Est-ce qu'ils veulent vraiment que le peuple aille mieux et qu'il y ait moins d'inégalités, etc.? On a vraiment l'impression que c'est le pouvoir et le besoin de pouvoir et le besoin d'être en place qui domine. Enfin, c'est dingue, ça. Puis on se dit aussi, alors est-ce que c'est un hasard que ça vient maintenant, toutes ces histoires-là? Tout le monde dit ça, c'est vrai, on peut se poser la question. Est-ce que c'est un hasard, c'est ce calendrier-là, juste avant les élections? Ça je ne sais pas.
La mise en examen le 15 mars.
Oui, non, ça c'est un petit peu curieux. Mais quand même, les gens se réunissent là, ils sont là sur la place du Trocadéro avec un mec qui a dit, de toute façon, si je suis mis en examen, moi, tout le monde l'a dit, c'est vrai, mais je ne me présenterai pas. Si, je me présente quand même. Donc cette histoire de pouvoir voter pour quelqu'un qui a menti, c'est quand même très particulier. C'est-à-dire, je me demande comment les autres pays nous regardent.
les autres, ils ont trop à faire.
Oui, c'est vrai aussi.
Justement, vous
c'est
disiez aussi, le calendrier judiciaire, ça paraît curieux, ce qui est un argument finalement de François Fillon.
Oui,
mais est-ce
ça.
Qu'il vaut mieux pas être fixé avant d'élire le président de la République? C'est finalement pas mal, non, d'être fixé avant.
En fait, ça pose le vrai problème de la sincérité, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vraiment sincères quand ils disent qu'ils veulent nous défendre et que la vie s'améliore, quoi. C'est ça que ça pose comme. Et puis qu'on se fait avoir toujours un petit peu. Et alors, moi, c'est-à-dire, est-ce qu'on y croit encore, quoi? C'est ça le problème. On cherche des nouvelles têtes et on ne sait pas vers qui se tourner. C'est incroyable. C'était beaucoup plus simple avant.
Oui, c'est vrai.
Mon père, il achetait l'humanité. Il y avait la gauche, il y avait la droite, etc. C'était très, très simple.
Depuis Macron.
Vous voyez, il y avait la gauche où c'était pour le peuple. Il y avait la droite, c'était pour les capitalistes. Mais maintenant, on ne comprend plus rien. Et puis, on n'y croit plus, surtout. Ça, c'est, voilà. On sait bien que le grand danger, c'est que les extrémistes peuvent monter en puissance parce qu'on n'y croit plus. Parce que, voilà, on peut être dégoûté, quoi. On ne croit plus à la sincérité des hommes politiques qui se présentent. Ça, c'est dommage.
Alors, c'est un véritable casse-tête chinois, on peut le dire. Est-ce que ça vous amuse d'essayer de le résoudre en imaginant, par exemple, tiens, quelle solution on pourrait trouver parce que ça alimente énormément de conversations. Vous vous promenez, j'imagine peut-être qu'à Paris et dans d'autres villes ou même dans les campagnes, on en parle de temps en temps parce que c'est vraiment un problème qui passionne tout le monde.
Ben oui, mais
vous avez envie de le résoudre à votre niveau individuel? Vous cherchez une solution?
Peut-être juste Fontaine qui marque des buts. Et... non, mais je sais pas. Moi, si je devais voter là demain, je serais très embêté. Alors donc.
Demain, oui, Michel.
C'est demain. Je serais embêté. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a Macron qui monte en puissance parce qu'on se dit lui, il est nouveau, il est jeune, il parle d'écologie. Alors.
Attendez, les casseroles arrivent pour Macron.
Oui, alors peut-être que les casseroles vont arriver. Mais par contre, très peu parlent de culture. Vous avez remarqué ça?
Ça, c'est sûr.
Très peu
parlent des artistes. Ça, c'est dommage. Parce que ça compte quand même, la culture. Même au niveau économique, et puis surtout au niveau spirituel, et puis au niveau culturel.
Oui, c'est un gros levier économique, la culture, bien sûr.
Très peu en parle.
Et Michel Jonas, vous avez raison, pour résumer.
J'ai pas de solution, excusez-moi.
Mais si, vous avez très bien résumé.
Merde, Michel.
Je suis désolé, enfin.
Vous avez très bien résumé la situation en disant on n'y croit plus. Ça, c'est un des problèmes majeurs, c'est vrai. Mélanie Bauer.
Oui.
Évadons-nous avec vous, tiens.
Oui, Gilles Scotteron, un livre. Alors, comme tous les artistes maudits, Gilles Scotteron, un peu comme vous, Michel Jonas, il écrit sa légende à titre posthume. Vous, votre personnage dans la pièce, pas en vrai. On devient un héros lorsque l'histoire est finie. La dernière fête sortie aux éditions Point, ce sont les souvenirs du poète, précurseur du rap, écrivain et chanteur Gilles Scotteron, de 1960 à 1990, mis en ordre par son éditeur. Un livre qui commence par le milieu de l'histoire, Happy Birthday de Stevie Wonder sur l'album Hotter Than July, le point de départ d'un projet qui paraissait fou, instaurer un jour férié aux États-Unis en mémoire de la naissance du pasteur Martin Luther King. Et on peut chanter pour Juliette. Happy birthday to you. Gilles Scotteron fait donc partie de cette grande épopée musicale et politique qui fera plier Ronald Reagan en 1983. Il signe à contre-cœur la loi créant un jour férié fédéral pour honorer Martin Luther King. Ce jour sera célébré pour la première fois le 20 janvier 1986. Mais l'histoire du livre se poursuit après ce prologue par la jeunesse de Gilles. Son coup de poker lorsqu'il lâche l'université, il utilise sa bourse pour écrire son premier roman, The Vautour. Il raconte son histoire avec beaucoup d'humilité. Un énorme tube en 74, comme vous, Michel Jonas, The Bottle, alors qu'il se destine à devenir prof de littérature et écrivain. Il devient, je cite, un mec à la chevelure hallucinante et au regard halluciné, pris en otage par ses chansons sur Winter in America. Des chansons qui racontent des histoires du quotidien, mais que le public s'approprie pour les rendre politiques. You see that black boy over there running scared? His old man in a bottle. Une histoire d'Alcoholics the Bottle. Joyeux anniversaire, Juliette.
Juliette, je vous soutiens, moi.
Merci, Charlie.
Bah oui.
Ce livre posthume, La dernière fête, ce ne sont pas des mémoires d'anciens combattants, c'est un vrai livre d'écrivain. Quand Gilles Scotteron raconte l'arrivée de Michael Jackson sur scène avec Stevie Wonder, je l'ai vu derrière moi faire trois pas, s'arrêter sur un temps, se tenir plus droit et plus grand, prenant une consistance solide, comme s'il passait de l'état gazeux à celui d'homme. On est avec lui sur scène, on vit cette stupeur de croiser quelqu'un de plus fort que soi. Il le dit très honnêtement, alors qu'il pense que Michael Jackson est un chanteur à la voix fluette, il va l'écraser de son talent. Après avoir chanté le refrain une seconde fois avec Mike, j'ai compris à quel point il était prêt et je ne l'étais pas. Avec ce livre, on vit aussi la mort de John Lennon, le racisme, le cancer de Bob Marley. En quatrième de couve, une citation du New York Times nous vend le livre en nous expliquant qu'il est aussi indispensable que les chroniques de Bob Dylan. C'est sûrement vrai. Gilles Scotteron est mort le 27 mai 2011 à l'hôpital pour pauvres de Saint-Luc à New York. Il est un des grands héros de l'Amérique. Il laisse des titres d'une grande force historique et artistique comme ce classique « The Revolution Will Not Be Televised ». You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. Song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke,
The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Jill Scotteron, The Revolution Will Not Be Televised.
Et oui, ça passera pas à la télé, la révolution. Bah, on va la faire. On va la faire ici et maintenant.
Et déjà en lisant.
En lisant. La dernière fête, c'est aux éditions Point. Gilles Scotteron ou Gilles Scotteron, certains disent. Mm-hmm. Bon, ça, voilà.
Merci Mélanie Bauer. Nous sommes en compagnie de Michel Jonas, qui fait le comédien dans Les Fantômes de la rue Papillon au théâtre du gymnase Marie-Belle. Mais aussi, là, vous faites toujours le chanteur et le musicien.
Ah bah, toujours, oui. Ça, déjà. Je peux pas arrêter ça.
Vous serez le 25 mars à Clermont-Ferrand, oui, par exemple.
Et avec le quartet.
Ouais, oui, exactement. Et le 6 avril aussi. Siècle, le quartet, saison 2, avec Manu Katché, Jean-Yves D'Angelo, Jérôme Regard, dans le cadre du festival Le Printemps des Nuits du Sud, avance le 6 avril donc. Le temps, il avance aussi, il est 17h36.
Oh là là, la transition, c'est finaux. Championne d'Europe de transition.
Oh, vous savez, je passe mes journées avec deux humoristes de qualité. Donc Guillaume Meurice à côté de vous, Michel Jonas.
Oui, Guillaume Meurice.
Et hier, vous étiez comme un poisson dans l'eau.
Eh bien, hier, j'étais une manif d'anarchistes, figurez-vous. Hier après-midi au Trocadéro, hein, en plein état d'urgence, rien à foutre de rien, les anards. Nique la justice, c'était le mot d'ordre. Thème classique hein, chez les anarchistes. Enfin, voilà, chez les punks à chiens, on va dire. Enfin, caniche, très exactement, en l'occurrence. Ils étaient venus défendre le leader de l'insurrection, un certain François Fillon, Fifi Ravachol, comme on l'appelle chez eux. Des milliers de personnes, hein, qu'on pourrait appeler d'ailleurs le groupe Les Anarchistes avec François Fillon, avaient donc monté une grande barricade sur le parvis des droits de l'homme. Hein. Le symbole était vraiment magnifique. Et les membres du groupe étaient en colère parce que leur chef est accusé depuis quelques temps de magouiller avec sa femme, hein, la surnommée Louise Pénélope Michel. N'est-ce pas, monsieur l'anarchiste, qu'il est accusé de ça?
Il est accusé de rien. Il est accusé de rien.
Un peu quand même.
De rien du tout, monsieur.
Mis en examen.
Eh ben, vous n'en savez rien.
C'est lui qui
l'a
dit.
Vous n'en savez rien.
Ah bah, moi, j'écoute ce qu'il dit.
Eh ben, vous écoutez, vous comprenez que des conneries.
Ah, je vous ai dit qu'ils étaient énervés, hein. Ah ben, c'est des anarchistes, hein. Ils sont comme ça, hein, les gars. Bon, alors, peut-être que c'est moi qui dis des conneries. Peut-être que c'est Fifi, hein, qui dit des conneries, parce que c'est lui qui a annoncé sa mise en examen et qui a dit aussi qu'il se retirait en cas de mise en examen. Alors, est-ce qu'il prendrait pas les gens pour des imbéciles? Eh ben, je vais vous dire la réponse. A priori, non.
On n'est pas des imbéciles, les Français, vous savez. On comprend tout. Tout, hein.
Ah ben oui, mais est-ce qu'il n'avait pas dit que s'il était mis en examen, il se retirait?
Si, c'est vrai, il l'a dit, mais on peut changer d'avis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Ah ben pour le coup, c'est pas un imbécile du tout, alors il a bien changé d'avis.
Non.
Ah ben à ce niveau-là, c'est même du génie, hein, j'aurais dit. Hein. Einstein à côté, c'est Nabila, hein, je veux dire. Hein. C'est pas pour rien que c'est le leader de l'insurrection, d'ailleurs, hein, Fifi, et que ses troupes ne respectent absolument rien. Payer sa femme à rien foutre avec de l'argent public, c'est quoi?
Ça, j'appelle pas une fraude. Hein.
Ah ben, s'il a employé sa femme à rien faire, est-ce qu'on peut quand même dire...
C'est son argent. Il a une enveloppe, il en fait ce qu'il en veut. De toute façon, ça a toujours...
Vous, ça vous choque pas?
Non, pas du tout.
Donc il aurait pu claquer tout le pognon au casino, ça vous aurait pas dérangé?
Eh ben oui, ça aurait dérangé personne, comme par hasard.
Mais évidemment, Thug Life, Fifi, enfin. Pourrait acheter de la coke et se taper des putes, on s'en fout, c'est de l'argent public. Nique l'État, c'est des anarchistes, c'est logique. Et nique les médias aussi, nique les médias. Hein. J'ai parlé de Patrick Drahi hier après-midi, hein, c'est le grand mania de la presse. Alors selon les anarchistes fillonistes, on est contrôlé par qui?
Par le goulag du pouvoir.
Le goulag du pouvoir.
Ah oui, on est pire qu'en Russie ici.
Mais qu'est-ce que vous appelez le goulag du pouvoir?
Bah, c'est la médiatisation, le goulag de la France. Vous n'avez pas compris là.
Drahi, c'est pas vraiment le communisme, non?
La France est goulagisée par la gauche et par les médias.
Et Drahi, il est de gauche.
Ah ben, bah, de toute façon, ils sont tous de gauche.
Et voilà, évidemment. Hein, là, alors là, on retrouve le clivage entre l'anarchisme radical de ce monsieur et le communisme de Patrick Drahi, voilà, qu'on appelle nous dans les médias le camarade Drahi. Drahi le rouge, hein, comme on dit. Et pas seulement quand il a pris trop le soleil aux Bahamas. L'anarchisme et le communisme, on le sait, ça fait rarement bon ménage. Et hier, il voulait de l'anarchisme pur et dur. Tiens, ce monsieur, il a bien écouté les discours de Fifi.
Il fait un discours, il a fait un discours à Nîmes, il a fait un discours au deuxième tour, comme ça, Juppé à côté, c'est une gonzesse.
Juppé à côté, c'est une gonzesse.
Ah ouais, c'est la France de l'université, moi j'en veux pas.
Mais non, évidemment, on en veut pas. Qu'est-ce que c'est que cette diversité avec des gonzesses en plus?
Oh là là.
Où on va? Taubira démission. Pardon, désolé, c'est un vieux réflexe, excusez-moi. Bon, alors passons au concret. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre la lutte plus efficace?
Un ministre de la communication qui répéterait pas deux fois à un président de France Télévisions pour virer Ruquier.
Qu'est-ce qu'il a fait, Ruquier?
Il fait du prosélytisme homosexuel.
Ah bon?
Oui.
Ah bah vous avez vu ça où?
Ouais, j'ai vu ça à la télé tous les samedis soirs.
Mais dis donc, Coquinou, qu'est-ce que tu fais tous les samedis soirs devant une émission de propagande homosexuelle? On veut savoir, hein? Voilà, du coup, quand ils disent nique les juges, certainement il y a un peu d'excitation hein, devant un homme en robe chez les anarchistes fillonistes. Et excité, il était tous hier, hein, ces gens-là, surtout quand ils parlent d'Emmanuel Macron.
Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir cette petite tapette hystérique et son tableau. On ne veut pas les avoir, Macron,
Jacques. Oui, Annie, évite-nous France Inter, dit son mari. Hein, va prendre de la verveine en intraveineuse. Annie, là, t'es en descente de tilleul, je pense. Et puisqu'on parle de France Inter, est-ce que vous vous souvenez que quand je suis allé fêter avec les fillonistes leur victoire à la primaire de la droite, j'avais rencontré une dame qui m'aimait beaucoup,
oui,
que j'avais appelée la cougar fillonniste.
Mmh.
Et ben, qui était là hier après-midi? Bah, attends.
Oh. Bonjour, monsieur Maurice, comment ça va? Je suis contente de vous revoir.
Ben, moi aussi, je suis content.
J'ai vu le monde qu'il y a.
Est-ce que vous continuez à nous écouter quand même?
Tous les matins. Et tous les soirs à 5h30, oui.
Et ben je salue donc mon anarchiste fioniste préféré. Voilà.
On l'embrasse.
Vous avez vu, il y en a des biens, comme on dit. voilà. C'était donc Guillaume Meurice en direct du parvis des droits de l'homme. Un des droits de l'homme de détourner du pognon public en toute impunité. Mort aux lois, vive l'anarchie.
Merci Guillaume Meurice et merci pour les risques que vous prenez. Hein, vous êtes revenu avec vos deux dents devant et ça c'est très très bien.
J'ai une prime de pénibilité.
Et tous ceux qui sont contre la diversité, là, ils devraient aller voir la pièce de Michel Jaunard.
Ah, c'est vrai.
Je pense à leur frais d'hiver.
Les fantômes de la rue Papillon, au théâtre du gymnase Marie-Belle. Et effectivement, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 18h avec Samy Seguir, un juif et un arabe au pop-up. Bah, bien sûr. Allez, le deuxième sujet avec vous, Michel Jonas. Un économiste anglais publie un best-seller international qui vient d'être traduit en français et qui explique l'avènement d'une nouvelle classe sociale, le précariat. Il regroupe les jeunes diplômés, les inscrits à Pôle emploi, les livreurs à vélo, les migrants exploités. Et si tous les précaires du monde pouvaient se donner la main, ben ça ferait bien flipper nos dirigeants, donc ils chercheraient des semblants de solutions sans doute.
J'ai trouvé la solution à tous vos problèmes d'emploi. Un truc génial pour vous insérer dans une perspective d'avenir et pour dire basta à toutes nos galères de jeunes. Ça s'appelle le plan emploi jeune de Martine Aubry. Excuse-moi là, mais c'est quoi un emploi? C'est comme un travail si tu veux. Par exemple, moi je vais être agent d'ambiance dans un bus. Et ce bon vieil Enrique va être agent de médiation.
Eh mais attends, c'est pas ce qu'on avait dit du tout, j'y connais rien moi en médiation. Tu m'avais dit que je serais développeur de patrimoine.
Mais peu importe, le principal c'est d'inventer des métiers nouveaux qui n'existent pas, adaptés au goût des jeunes. Bon toi par exemple, c'est quoi ton truc?
J'aime bien le jus d'orange.
Bah voilà, excusez-moi mais je vois pas le rapport avec un métier là.
Mais si, tu vas voir, regarde. Manuela, je te nomme médiatrice en boisson orangée.
Amour, gloire et débat d'idées, les fameux détournements et doublages de Nicolas et Bruno. Voilà, c'est un néologisme, le précariat, un néologisme inventé dans les années 80 pour désigner les travailleurs temporaires ou saisonniers. Et aujourd'hui, apparemment, c'est l'émergence d'une classe sociale assez massive et relevée par un économiste anglais qui s'appelle Standing. Ça ne s'invente pas. Alors, le précariat regroupe donc tous ceux qui sont en insécurité économique aujourd'hui. Ça fait donc un paquet de gens tout à fait hétéroclites. Est-ce que vous vous en croisez dans vos différentes activités, Michel Jonas, que ce soit des musiciens, des intermittents du spectacle, est-ce que ces métiers tout à fait insécures, autre néologisme, est-ce que vous en croisez ou vous l'avez été vous-même sans doute?
Ah, moi je l'ai été, oui. Ben oui, je suis pas issu d'un milieu très favorisé. Hein. On vivait dans... J'ai vécu dans un HLM pendant 15 ans. Ils existent encore, d'ailleurs. C'était à la porte Brancion. Ils sont toujours là, ces HLM. Oui, bien sûr, j'en ai connu. Mais je suis d'une autre époque, quand même. Hein. Moi, je suis né en 47, vous voyez. Donc, c'est d'une époque où tout était encore à construire, où on ne s'inquiétait pas. Il fallait juste trouver sa place, sa mission, sa vocation. On n'avait pas peur du chômage. On savait qu'on pouvait faire quelque chose. Or, les mômes, aujourd'hui, j'en croise, oui, sont un peu paumés parce que ça leur fait peur, ça, cette histoire de pas trouver de travail. Et puis, pour répondre à votre question par rapport au milieu artistique, ça c'est un peu particulier, parce qu'il y a comme, quand on est comédien, il y a beaucoup, vous savez, c'est peut-être même le métier où il y a le plus de chômage, où il y a le plus de c'est pour ça qu'il y a les intermittents du spectacle, et qu'il y a ce régime particulier, parce que, mais il y a aussi comme une espèce de gêne, c'est pas agréable, quand on est comédien ou quand on est chanteur, de dire qu'on travaille pas. Parce que c'est comme si, vous voyez, c'est ça la particularité de notre métier, c'est qu'on dépend de l'amour des gens. Et donc, c'est comme si vous disiez, ben on m'aime pas, je ne suis pas reconnu, on a besoin de reconnaissance, vous-même, tout le monde entier a besoin de cette reconnaissance. Mais c'est très vif, c'est-à-dire c'est une question de survie pour les artistes. Donc oui, j'en croise, mais en même temps, il peut y avoir de non, tout va bien. Vous voyez, il y a du tout va bien.
Il y a du je suis sur un projet.
Oui, hein, je suis sur un projet et tout va bien et ça va le faire.
Ouais. Et c'est vrai qu'en dehors, en plus de ne pas forcément trouver des rôles, le soir on fait des boulots qui eux aussi sont précaires parce qu'on ne sait pas le lendemain si on pourra retourner
et
travailler.
Et puis, moi je fais les deux, c'est vrai, mais dans la musique, je suis mon propre maître, j'écris mes chansons, je choisis les moments où j'enregistre, je choisis les musiciens, je choisis les studios, je suis même producteur de mes disques et de mes spectacles. Mais quand on est comédien, on dépend des autres, vous voyez, à moins de comme toi ou comme toi d'écrire des one man shows et des choses comme
de
ça,
de faire les andouilles, hein.
Mais sans ça, on dépend d'un réalisateur qui pense à vous, on dépend d'un rôle qui va vous convenir, etc. On dépend de beaucoup de choses. C'est pas une fausse image de dire que le comédien peut être derrière son téléphone à attendre la belle occasion, quoi.
Ou comme Juliette, d'écrire ses propres pièces, parce que c'est vraiment ça.
Avec d'autres gens.
Ah oui, non, mais
parce
ça.
Que soi-même, on ne sait pas faire. Le précariat, donc peut-être une nouvelle classe sociale, en tout cas un néologisme qui désigne un phénomène, la mutation de notre société et qui devient majoritaire. Et donc peut-être que c'est le précariat qui va relancer la lutte des classes, sait-on jamais, à suivre dans cette émission ou dans 20 ans, on verra bien. Juliette Arnaud, puisque vous avez le micro.
Oui.
Évadons-nous aussi avec vous, tiens, voilà.
Oui, évadons-nous. Est-ce que vous savez, Charline, ce que c'est qu'un incipit?
Oui, l'incipit, c'est la phrase qui démarre un roman, c'est ça?
Alors, ça peut être ça, mais en général, c'est un commencement. Il y a aussi en musique un commencement. Par exemple, il y a des commencements très très célèbres. Hein, ta-ta-ta-tin.
Hein, Beethoven incipit.
Voilà, ouais. Cinquième symphonie. Ta-ta-tin. Renaud, hein, c'est marrant,
ouais.
C'est
ah oui,
hein, c'est deux vrai. Salles, deux ambiances quand même. Hein.
Voilà. Ta 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 ta.
Voilà, et on a fait ça devant Michel Jonas, on est content avec Guillaume. Non, mais ce qu'on va faire, on va passer dans ma zone de confort, les livres, les incipits de romans justement, qui ne servent pas qu'à entamer le récit. Hein. Finalement, ils ont valeur d'annonce de programme. Alors, il y en a très très célèbres. On va faire un petit quiz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La Bible, madame.
Bingo ! Dans la bouche de Meurice, c'est amusant.
Je connais mes classiques.
J'avais une
Bereshit bara Elohim. En hébreu.
Ben voilà,
Bereshit bara Elohim.
J'avais une ferme en Afrique au pied du mont Gong.
Ah ! Mais si.
Au Taf Africa ?
La ferme africaine, Karen Blixen, voilà. C'est ça. Et enfin, Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins.
Nabokov ?
Bingo ! C'est Charline la meilleure. Et puis, il y a eu l'incipit d'un des plus grands romans d'amour du XXe siècle, celui que je vais vous chroniquer aujourd'hui. Et cet incipit, ça fait la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide, elle lui déplut enfin.
Quelle est ?
T'es sérieux, Louis ? Tu nous commences un roman d'amour avec ça ? Un type qui trouve une fille moche ? Déjà que sur le papier, les gens, ils se disent quoi ? Aragon, un poète crypto-stalinien, et puis le livre il fait 700 pages, j'ai peur, j'ai pas le temps, la couve elle me fait peur et la neige elle est trop molle. Stop, calmez-vous, c'est vrai que ça commence comme un ratage. D'ailleurs, Aurélien et Bérénice, les deux héros d'Aurélien, d'Aragon, vont beaucoup se rater. Bah, à l'amour c'est volatile de toute façon alors, et puis comme dit Bérénice, les obstacles même à l'amour, ceux qui ne se surmonteront pas, ne font-ils pas sa grandeur? C'est comme ça qu'elle s'interroge Bérénice, la petite provinciale mariée à un pharmacien qui est de passage à Paris et qui va tomber amoureuse d'Aurélien. Bérénice en quête d'absolu. Bérénice intransigeante, pas mondaine, pas bien coiffée, pas bien habillée, mais pure. Et Aurélien ? Bah Aurélien, il a laissé l'absolu quelque part derrière lui dans les tranchées, parce qu'il est un survivant de la guerre des tranchées. Alors Aurélien, il est comme spectateur de sa propre vie. D'ailleurs, il est rentier, donc il n'a pas à travailler, un petit bourgeois. Il est noceur, il est séducteur, il est ennuyé par les autres et par lui d'abord. Et puis il y a Bérénice qui le trouve laide d'abord. Alors ouais, ça commence bizarre. Mais Roméo et Juliette aussi, ça commençait bizarre. Bah oui, je vous rappelle que quand Roméo il arrive à la boum des Capulets, il a la tête farcie d'une autre qui se refuse à lui physiquement. Hein, il est le prétendant transi et conduit de Rosaline. De là à dire qu'il tombe amoureux de Juliette parce qu'elle couche le premier soir, bien qu'un pas que je ne franchirai pas.
C'est une qualité.
Mais bien sûr, Alex, c'est une qualité. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je m'appelle Juliette après tout. Le truc, c'est que ce roman, Aurélien, il est publié en 1944 et il écrit donc pendant la guerre et surtout pendant une mouse crise conjugale entre Elsa Triolet et Louis Aragon. Les années folles, la bulle de fête des années folles, du surréalisme et des dadas, c'est bien fini, voire enterré. Alors Aragon, il raconte sa jeunesse, le mal de son siècle, le sien, celui qui était aussi celui de Drieux-La Rochelle. D'ailleurs Aurélien, c'est un mélange entre Drieux et Aragon. Le mal du siècle, c'est ceux qui ne se remettaient pas vraiment d'avoir survécu à la Première Guerre mondiale et qui en plus se sont mangés la deuxième par là-dessus alors qu'ils avaient à moitié digéré celle-là.
Aurélien, c'est pas qu'une déchirante rêverie amoureuse. Ça appartient à un cycle romanesque d'Aragon qui s'appelle Le Monde Réel. C'est l'avant-dernier épisode. Donc, de cette manière-là, ça s'apparente un peu au Rougon-Macquart, à la comédie humaine. Le Monde Réel, Aragon observe les différentes classes sociales de son époque. Et c'est un des plus grands pour ça, parce que sa prose à Aragon, elle, c'est une balade à droite sans effort entre la poésie la plus fine et le putain de monde réel. À la même époque de la rédaction d'Aurélien, Aragon, donc qui était très très triste à cause de cette histoire avec Elsa, il avait écrit aussi une chanson qui s'appelle « Il n'y a pas d'amour heureux ».
Il n'y a pas d'amour heureux.
Voilà, qui commence en disant « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. » Ça a été mis en musique par Brassens, ça a été chanté par tout un tas de gens. Alors je vais finir par un secret. Je vais le dire pas trop fort parce que vraiment c'est un secret d'amoureux. Oh là là, allez-y. Et ben le poème, en fait, il finit pas vraiment comme ça. Il finit pas comme tous les chanteurs l'ont chanté en disant « Il n'y a pas d'amour heureux ». Les vrais mots de Louis Aragon, c'est « Il n'y a pas d'amour heureux ». Mais c'est notre amour à tous les deux. Vous la saisissez la nuance ? Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud.
Ça m'a ému. Moi.
Évidemment, on peut trouver en poche.
En poche, ça veut dire que c'est pas cher, mais il y en a pour 700 pages.
Merci Juliette Arnaud. Tiens Michel Jonas, si on ne peut pas venir vous voir au théâtre du Gymnase, parce qu'on habite loin peut-être, hein, voir les fantômes de la rue Papillon, on pourra bientôt vous voir. Ce sera Louis Mars au cinéma, dans le film d'Olivier Casas qui s'appelle Babyphone.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes partout, vous êtes même en concert, à Vence, à Clermont-Ferrand, avec le Michel Jonas Quartet, bien sûr, la saison 2. On va aborder ce dernier sujet avec vous, Michel Jonas, des passionnés de la guerre 40-45. Déjà, cette phrase est bizarre. Ouvrent leur collection au public dans un espace hybride entre musée et parc d'attractions près de Strasbourg. On peut déambuler autour d'une rangée de 120 chars russes, français et allemands,
hey,
ou s'élancer sur une tyrolienne pour jouer à débarquer sur les plages de Normandie. Le seul risque étant bien sûr de se prendre un peu trop au jeu.
L'important, les bidasses aujourd'hui, c'est ma sécurité. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a d'autres soldats qui sont tombés comme des mouches à merde pour me protéger. Ok ? Allez, les gros devant et ceux qui savent faire une salade avec trois fois rien et une sauce ultra light derrière.
Go, c'est parti,
Lipo !
On dit yes, princesse !
Yes, princesse !
Allez, go ! Si je me prends une bille, il faut des gants blancales ! Ah, mais c'est dégueulasse ! Quelqu'un pour me porter, là ! Super, je pourrais peut-être vous prendre comme adjudant ! Oh ! Putain, mais quel nul ! Il a pris une balle ! Laissez-le ! Il va nous ralentir ! Go ! Ok, maintenant, on va aller torturer l'ennemi ! J'ai un disque de Chimène Badi !
Un extrait de Connasse, évidemment, le programme de Canal+. Alors, ce matin, en ouvrant Le Parisien, aujourd'hui en France, nous sommes tombés sur ce titre. Et si on jouait à la guerre ? Curieux, n'est-ce pas? Déjà, est-ce que ça vous inspire une réflexion, vous, Michel Jonas? On ouvre le journal le matin et puis le journal nous dit, tiens, si on jouait à la guerre dans une espèce de parc d'attractions musée.
Oui, moi, je ne sais pas. Quand j'étais môme, je jouais pas à la guerre. Beaucoup de mômes jouaient à la guerre, non? Oui. J'aimais bien jouer avec les petites voitures, avec les petits soldats, tout ça, parce que je m'inventais
Les petits soldats,
les petits soldats, mais c'était pas la guerre.
Ils faisaient des sandwichs. Ils faisaient des trucs de soldats.
Voilà.
Des bisous.
Ils faisaient des bisous entre eux. Ils montaient sur les voitures, enfin.
Vous êtes un pacifiste dans l'âme. Ça vous paraît curieux, cette passion qu'on peut avoir pour collectionner les armes, les chars?
Voilà, c'est ça, c'est des passions militaires, hein, c'est-à-dire c'est que des trucs d'armée.
Oui, tout à fait, ce sont deux passionnés de 39-45 qui ont donc mis leur collection à disposition du public avec des uniformes, des chars, etc. Et qui disent, tiens, leur postulat c'est pour intéresser les enfants à la Seconde Guerre ou à la guerre en général, il faut les amuser.
Ah oui, c'est-à-dire que pour moi 39-45, c'est pas un bon souvenir, enfin je l'ai pas vécu puisque je suis né un petit peu après, mais tout de même, mon histoire familiale fait que mes grands-parents maternelles ont été déportées, ne sont pas revenus des camps. Quatre oncles ne sont pas revenus des camps. Donc moi, j'ai entendu parler de ça toute mon enfance, toute ma jeunesse, vous voyez, 6 millions de juifs qui sont morts. Je me disais, mais c'est quoi? Ça fait combien? Ça représente quoi, 6 millions de juifs? Pour moi, la guerre, si vous voulez, c'est ça. Et depuis, on en parle souvent avec Samy le soir, mais comment on peut pas comprendre? Comment on peut mourir parce qu'on est juif, mourir parce qu'on est musulman, mourir parce qu'on est catholique? Comment on peut être tué pour sa couleur ou pour son ethnie ou pour sa religion, etc.? Moi, je me demande vraiment, quoi, combien de centaines d'années il va falloir encore pour comprendre que ce qui peut nous sortir de tout ça, c'est que la prise de conscience de l'unité, quoi, de la fraternité qui est absolument indispensable si on veut survivre, quoi. Moi, c'est ça qui me sidère, quoi, qu'on n'ait pas. Alors, il y en a plein, les discours discours de la fraternité, de la liberté, ouais, du machin, mais quand est-ce qu'on concrétise? Quand est-ce que ça se matérialise vraiment, quoi? C'est ça la vraie question.
Et c'est le thème ça... de la pièce.
Oui, oui, effectivement, la, de la pièce, les fantômes de la rue Papillon. Et donc, on est très loin de l'idée de jouer,
oui, jouer,
de jouer à la guerre qui nous est proposée ici.
Oui, mais... parce que voilà comment j'ai entendu parler de la guerre.
Bah, bien sûr, évidemment.
Ma mère a apporté l'étoile.
C'est aussi l'aspect qui nous a interpellés ce matin. D'ailleurs, Guillaume Meurice,
oui,
vous allez vous intéresser à ce sujet qui nous paraît très curieux, en tout cas. Michel Jonas.
Jouons à autre chose.
Oui, jouons à autre chose, de beaucoup plus agréable.
Jouons, donc en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, je vous propose de jouer à Les Républicains.
J'aime bien jouer.
Ah, je vous ai donné le rôle de Gérard Larcher. Parce que là, juste à 18h, donc c'est dans 5 minutes, il y a un comité politique chez Les Républicains. C'est Gégé qui va tenter de gérer la boutique.
Il n'y a que CV, AV, MJ. D'accord.
Vous êtes MJ, Michel Jonas. Ben oui, c'est bien organisé. Guillaume Meurice, c'est Sarkozy. Bonjour. Charline est fioniste. Bonjour. Je suis jupéiste. Ça va gueuler un peu quand même.
Fillon avec nous,
Juppé avec nous, Juppé avec nous.
Chers amis, nous sommes réunis pour évaluer la situation de manière sereine.
Oui, Gérard Larcher a raison, de la sérénité avant tout, je connais bien le problème.
Fillon, président.
Fillon, démission.
Chers amis, merci de vous montrer au moins objectif.
Ah, exactement, vous avez vu ça, 300 000 personnes hier au Trocadéro.
Oui. Je peux demander, monsieur Larcher, à madame la fioniste de nous compter ici,
oui,
maintenant.
Si vous voulez, mais vite, j'ai faim. Oui.
Ah bah, dans cette pièce, on doit être à peu près... Oui. Ouh, alors là, 163.
Ah oui, c'est grave.
Oui, 163, 165, oh, on n'est pas à deux personnes près. Hein.
On est exactement 32.
On dirait que c'est Big Malion qui calcule.
C'était bien hier au Trocadéro.
Oui, c'était surtout... alors on regardait les cathos, on les trouvait pas très beaux.
Voilà, je crois que vous avez besoin de vacances au bord de la mer.
Hein. Oui, à Bordeaux, par exemple.
Les jupéistes, ils sont un peu trop le blues, là.
Oui, rien qu'en voyant la tête de leur leader, déjà.
Bon, on peut avancer.
Oui, pardon.
Parce que moi, je vous avoue que j'ai une petite faim.
Si vous voulez, Pénélope peut vous apporter des petites confitures.
Il paraît que c'est pas elle qui les fait, mais qu'elle les fait payer très cher quand même.
On peut parler sérieusement.
Pardon.
Non, parce que là, on dirait des gamins qui se disputent dans une cour de récré, franchement.
Et moi, j'ai tellement de peine pour ce pauvre François Fillon qui m'a battu au primaire.
Alors vous verriez qui d'autre comme candidat?
François Fillon est le seul d'entre nous qui puisse être président.
Le meilleur d'entre nous, c'est Alain Juppé.
Et Nadine Morano, ça vous dit...
Oui, si on va comme ça, oui, on peut présenter la vache vedette du salon de l'agriculture à ce moment-là.
Ça, c'est pas très gentil pour la vache.
Moi, je propose qu'on règle tout ça dans une réunion entre François, Alain et moi.
Bonne idée. Le trio des monstres sacrés, un peu comme la rencontre au sommet entre Brel, Brassens et Ferré.
Oui, sauf que moi, c'est ma femme qui joue de la guitare, et a pas de moustache.
Bon, vous êtes OK tous les trois pour une réunion mardi?
Mardi, c'est impossible pour François. Il a déjà une réunion avec Pénélope pour faire le point sur le travail qu'elle n'a pas fait.
Alain est disponible jusqu'en 2036, l'âge de David.
On va jamais s'en sortir.
Ça, c'est seulement vous m'aviez choisi comme candidat.
Comment vraiment avoir faim? Vous auriez pas un truc à manger?
Si vous voulez, j'ai des chouquettes.
Moi, j'aimerais mieux un plat adapté à notre situation. Par exemple, des truffes. Pas des andouilles, non. Des truffes.
Michel Jonas était Gérard Larcher. Oui. C'était beau. Merci Michel Jonas.
Avec plaisir.
On recevait le comédien aujourd'hui qu'on peut voir dans Les Fantômes de la rue Papillon au théâtre du gymnase Maribel, dans une pièce écrite et mise en scène par Dominique Koub avec Samy Séguir et la participation de Judith Magre. C'est du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 18h, et c'est chaudement recommandé par Alex Vizorek qui a beaucoup aimé.
C'est plaisir.
Merci Michel Jonas.
Merci de m'avoir reçu.
Demain on recevra Florence Foresti et voici le mot de la fin à Alain Juppé qui a refusé d'être le recours de la droite ce matin.
Non monseigneur, ça suffit. Faites des rondes jambes, debout, assis, couché, saluez comme ci, parlez comme ça, je n'ai pas tué la tête. Alors monsieur le marquis, bien le bonjour.